au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Votre émission, au fil des pages, devant les micros de Canal Académie, a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Millet.
Bonjour.
Olivier Millet, bonjour. Ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Paris 12, spécialiste de l'humanisme et de la littérature religieuse. Vous avez consacré votre thèse à Calvin. Vous avez édité l'Institution de la religion chrétienne dans sa version française de 1541. Dites-nous chez quel éditeur et en quelle année ?
Alors, l'Institution chrétienne, dans la première, donc version française, la plus courte, c'est publié depuis fin 2008 à la librairie chez Dro, donc D-R-O-Z, à Genève.
Et vous avez également publié de nombreuses éditions, études d'œuvres de la Renaissance française, notamment sur Montaigne, Du Bellay, on peut aussi citer Marguerite de Navarre. Vous venez de publier aux éditions Infolio, dans la collection Illico, un ouvrage intitulé Calvin. Pourquoi avoir décidé de faire chorus avec toutes les sorties de livres consacrés à Calvin en cette année du jubilé ? Pourquoi ?
Alors, il y a eu d'abord une demande. On me demandait un petit ouvrage très synthétique sur Calvin, un peu, si vous voulez, dans une collection de type que sais-je. Mais c'est une collection, là, un peu moins formatée, peut-être. C'est-à-dire un ouvrage où l'on mettrait un maximum de renseignements, d'informations et d'interprétations sur le phénomène Calvin. J'ai donc voulu me distinguer d'un autre type d'ouvrage qui existe sur Calvin. Et il y en a plusieurs beaux exemples cette année. C'est la biographie. Ça, ce n'est pas une vie de Calvin, bien qu'il y ait des éléments biographiques. C'est plutôt une présentation de l'œuvre, de la pensée et de l'auteur, de l'écrivain.
Oui, pour définir justement votre ouvrage, comme vous venez de commencer de le faire, les éditions Infolio écrivent « Portrait d'un homme, synthèse d'une œuvre, situation et portée d'un auteur ». Calvin présenté, donc par vous, Olivier Millet, l'un des meilleurs spécialistes actuels. Voilà, alors une bien sympathique présentation qui donne envie de lire. Le mot « synthèse » s'applique bien à ce livre que j'ai entre les mains et que nos éditeurs, je le souhaite, pourront se procurer. J'ai aussi la sensation d'une toile impressionniste, un portrait par petites touches très précises et très bien formulées qui constitue en quelque sorte l'image centrale du réformateur.
Oui, j'essayais de, non pas de raconter donc du début à la fin cette histoire d'un individu, mais plutôt de présenter un maximum de faits qui permettent de définir sa pensée et finalement aussi au-delà de sa pensée, son rôle historique et son influence aussi jusque dans le monde moderne. Donc un maximum d'informations sur son œuvre, sur son personnage, un maximum aussi d'interprétations que l'on a données de cette œuvre et de ce personnage, car il est resté une personnalité controversée. Et de cela aussi, je voulais rendre compte.
Je vais prendre un peu de temps pour vous citer, Olivier Millet. Vous écrivez, page 113, comme Luther avant lui, Calvin a saisi très rapidement l'importance du livre imprimé dans la société de son époque. Il en a exploité au maximum les ressources pour les mettre au service de ses idées en matière de réforme de l'Église. On peut envisager la diffusion imprimée de l'œuvre de Calvin de plusieurs points de vue. Celui de l'histoire du livre et des rapports de l'auteur avec la chose imprimée a été présenté de manière systématique et très informée par l'historien Jean-François Gilmont. Celui plus littéraire de la conscience d'auteur qu'avait Calvin reste en partie à étudier. Les divers genres d'écriture qu'il a pratiqués relèvent également de cette problématique. Celui enfin de l'histoire de la perception de l'œuvre de Calvin au cours des siècles n'a été abordé que de manière indirecte par les études qui traitent en général de l'histoire de l'image de Calvin. Alors justement, cette œuvre écrite et ce livre imprimé, cette notion de la langue, de ce souci de communication qu'avait cet homme alors, en son
alors,
siècle.
Calvin, c'est comme on le sait, un grand théologien, un grand spirituel, donc un homme d'église, mais pas seulement. Et ce qui est frappant dans son cas, c'est qu'il a utilisé, donc connu, et de l'intérieur d'ailleurs, toutes les possibilités de ce que représentait l'invention et la diffusion de ce nouveau média qui était le livre imprimé. Je donne quelques exemples pour être concret. D'abord, il a pratiqué des genres littéraires extrêmement différents. Alors qu'il était un homme de la parole orale, puisqu'à partir de son installation à Genève, il a passé presque toute sa vie à prêcher sur l'écriture sainte, à l'expliquer.
3000 sermons, on dit.
Voilà, 3000 sermons. Il prêchait tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour. Il a par ailleurs été un homme de plume, et un homme de plume qui connaît parfaitement les techniques même de l'imprimerie. Par exemple, il aimait les beaux livres, les belles impressions. Et justement, les années 1540, 1550, 1560 sont un des très grands moments de l'histoire de l'imprimerie. On imprime sur des papiers superbes, avec une typographie d'un niveau absolument extraordinaire, parce que les imprimeurs, les typographes de cette époque sont de grands humanistes, ce sont aussi des hommes de l'art. Et il les a fait venir à Genève pour disposer de cet instrument-là, de la diffusion de sa pensée. Alors, ça peut passer par des petits pamphlets et imprimés un peu à la va-vite pour être pas cher et facilement diffusés. Ça peut passer aussi par des livres de très grande allure qui sont encore magnifiques à tous égards, comme livre, aussi bien que comme langue, comme style et comme tenue de la pensée.
Alors, Olivier Millet, pour parler justement de l'œuvre de Calvin, vous nous parlez du Calvini Opéra, 59 volumes, et une année de publication 1863. Alors, parlez-nous de ce Calvini Opéra.
Voilà, les Calvini Opéra, donc les œuvres de Calvin, c'est une entreprise d'édition systématique de tous les écrits de Calvin, y compris de ceux qui étaient restés manuscrits jusqu'au XIXe siècle, qui a été entreprise à Strasbourg par de grands savants, trois grands savants strasbourgeois. Parce qu'en réalité, il faut bien voir qu'à partir du XVIIe siècle, on ne réédite Calvin que sous la forme latine. On a des œuvres complètes de latin, mais d'immenses grands in-folio en latin que seuls les savants dans les universités pouvaient pratiquer à cause de la langue latine. Et donc, les gens qui ont voulu lire du Calvin, les gens, j'allais dire presque comme vous et moi, au XVIIe, au XVIIIe, et pendant toute la première moitié du XIXe siècle, devaient forcément regarder, si vous voulez lire un texte français, ou une seule œuvre, des éditions du XVIe siècle. Acheter des éditions qui avaient parfois 2-3 siècles, même davantage. Alors, nos éditeurs, nos grands savants strasbourgeois, ont voulu rassembler l'ensemble de l'œuvre de Calvin, y compris le français. Ça, c'était une innovation. On commence à découvrir vraiment l'ampleur de l'œuvre française de Calvin à partir donc du milieu du Xe siècle, grâce à ces Calvini Opéra. D'autre part, il y avait une ambition, on dirait aujourd'hui scientifique, c'est-à-dire de donner un texte sûr, de donner accès réellement à ce que Calvin avait écrit dans l'ordre où il l'avait écrit, l'ordre historique, chronologique, enfin bref, de se faire une idée exacte de l'œuvre et de son ampleur.
Alors l'œuvre majeure, c'est l'institution de la religion chrétienne, bien évidemment. Il y a aussi son abondante correspondance, les sermons dont nous parlions il y a un instant, mais aussi les commentaires des psaumes. Et puis,
beaucoup de commentaires des psaumes, c'est parce que c'est le commentaire central de son œuvre, mais il a commenté presque toute l'écriture sainte.
Des traités ?
Des traités, et eux-mêmes dans des genres très divers, parce qu'on va des petits pamphlets journalistiques sur des questions d'actualité à des traités un peu plus longs et qui traitent des questions apparemment de circonstances, mais de manière à finalement expliquer au public de son temps des points fondamentaux à ses yeux de la foi chrétienne. Donc des traités qui semblent de circonstances, comme sur les reliques par exemple, ou sur la Sainte Cène, c'est-à-dire l'Eucharistie, ou sur le traité des scandales, qui est un de ses grands textes aussi, sur la manière dont ses contemporains étaient choqués ou pas, c'est ce que veut dire scandale là, choqués ou pas par la réforme protestante, etc., etc. Donc des textes qui semblent de circonstances, mais où il explique de manière assez, oui, on peut dire littéraire, c'est-à-dire avec toutes les ressources de sa culture d'écrivain, son point de vue, et enfin des traités sur des questions plus techniques, de théologie, qui eux semblent n'intéresser que les théologiens, mais qui ont toujours aussi des enjeux moraux, anthropologiques, ce qui concerne la condition humaine et son rapport avec la divinité. Même dans ce qu'il y a de plus technique chez Calvin, on retrouve toujours quelque chose d'intéressant pour le philosophe, le moraliste ou le littéraire.
Le professeur, le chercheur en matière de littérature française que vous êtes, ne déplore-t-il pas quelque part que l'on se soit essentiellement intéressé à la dimension théologique des textes de Calvin au détriment de l'histoire littéraire de ces textes, de leur langue et de leur style? Pourriez-vous nous en parler aujourd'hui?
Tout à fait. D'abord, une petite mise au point là-dessus. Il y a une tradition admirative de l'œuvre de Calvin qui court du XVIe jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est seulement au XIXe siècle qu'on a établi cette tradition, je dirais, dans une culture commune, dégager des préjugés ou des controverses confessionnelles. Donc Calvin commence au XIXe siècle à être reconnu comme un grand écrivain français, même par ceux qui n'aiment pas Calvin ou qui n'aiment pas son œuvre. Alors, maintenant que nous avons accès, effectivement, grâce à ce travail d'édition qui a été fait depuis le 19e siècle. Je dirais que Calvin, c'est l'invention, vraiment l'invention au sens de quelque chose qui n'avait pas de précédent dans la langue française, d'un univers de langage qui est, et c'est ça son intérêt, sa grandeur, parfaitement cohérent avec les principes, non seulement théologiques, mais spirituels, esthétiques, moraux de la pensée de Calvin. Il invente une langue, une manière d'expliquer dans la langue française ces grandes idées qui captivaient ses contemporains ou qu'il voulait présenter à ses contemporains. Il y a quelque chose aussi d'un peu provocateur hein, chez Calvin. C'est quelqu'un qui met les pieds dans le plat. Hein. Dans une langue, dans un style, une manière de composer un ouvrage du début à la fin, une manière d'utiliser le paragraphe comme unité de réflexion, de démonstration et de persuasion. Dans la phrase, avec son rythme qu'il maîtrise de manière admirable, dans son lexique, dans ses images qui opposent constamment la vérité et l'erreur, le droit chemin et les labyrinthes dans lesquels on risque de se perdre. Donc une invention sur tous les plans de la langue française, parfaitement cohérente, je dirais, avec son univers, ou ce qu'on pourrait dire aussi avec les valeurs spirituelles qui animent son œuvre. Évidemment, ça, c'est le privilège des très grands génies que d'inventer la langue de leur vision du monde et d'avoir la vision, une vision du monde qui se traduit par une langue et donc une œuvre littéraire nouvelle.
Alors, une intention aussi formidable de sa part de s'adresser, comment dirais-je, à tout un chacun en utilisant la langue vulgaire, mais le français, un beau français dont vous nous parliez tout à l'heure. L'ensemble de ses productions est donc traduit, imprimé en français de son vivant.
Voilà. Alors, première remarque, il écrit également en latin, mais alors il se traduit en général lui-même en français. Et quand il écrit en français, en général, il est traduit en latin par des collaborateurs, de manière à toujours toucher les deux publics. Deuxième remarque, il s'adresse en français très très rapidement à ses contemporains.
Ça, c'est une révolution.
C'est une révolution complète en ce sens qu'il s'adresse en français sur les questions les plus délicates ou les plus difficiles, même à certains égards, qui étaient donc de la théologie, de la morale, de la philosophie, de la spiritualité,
des questions secrètes
de la politique.
À l'époque.
Oui, des questions qui étaient en tout cas l'apanage des gens très cultivés et donc du latin, de la langue latine. Et tout cela passe dans la langue française et dans une langue française qui prend une forme en pré-moderne, disons. C'est-à-dire accessible en réalité par des gens à partir du moment où ils étaient alphabétisés et pouvaient suivre un raisonnement, un discours. Et ça, c'est une invention extraordinaire. C'est un décloisonnement culturel, je dirais, entre les questions réservées à l'élite et d'autre part, les problèmes que tout un chacun, dans son existence, peut rencontrer sur le plan moral, spirituel, psychologique. Ce décloisonnement, c'est l'œuvre évidemment d'un vulgarisateur, mais qui ne part pas de doctrines secrètes, ésotériques ou intellectualistes pour les traduire dans une langue plus facile. Calvin pense et élabore tout cela en français, autant qu'en latin.
Il y a aussi les innombrables lettres que Calvin a adressées aux têtes couronnées de son époque. Et il y a toutes sortes de personnalités.
Tout à fait. Calvin, ce n'est pas un individu solitaire qui aurait eu une idée géniale, qu'il aurait essayé ensuite de diffuser. Vous voyez la figure de l'intellectuel moderne. C'est dès le départ un homme de réseau. À travers ses origines picardes, il dispose de réseaux au nord de la France. À travers ses origines, sa formation universitaire, c'est un juriste. Il dispose de condisciples qu'il admire et que lui-même apprécie ou affectionne. À travers son enracinement à Genève, à travers sa culture humaniste qui le met en contact avec une bonne partie de l'Europe, de l'humanisme de cette époque. À travers l'accueil qu'on réserve à son œuvre et qui intéresse les autorités politiques soucieuses de réformer l'Église ou la société de leur pays et donc avec lesquelles il correspond. Et il correspond notamment en leur adressant des dédicaces de ses œuvres. Mais il écrit aussi des lettres privées à toute une série de grandes figures féminines, de princesses. Je pense à Renée de France, qui était duchesse de Ferrare, sans doute à Marguerite de Navarre, mais nous n'avons gardé que je crois qu'une ou deux lettres, à d'autres princesses, à des femmes d'un rang moins élevé, mais qui appartiennent à la noblesse. Et il avait un pouvoir de séduction, c'est évident. Il écrit à ces personnages-là en langue française et à distance, il exerce un rôle de conseiller spirituel, on peut dire, sans concession, mais qui sait aussi respecter la personne de l'autre et trouver toujours le ton juste, ferme, car il est une sorte, comment dire, de porte-parole de la vérité divine auprès d'elle, mais en même temps, qui a toute l'habileté pour respecter ces personnes dans leur faiblesse, dans leur force, avec un sens magnifique de la formule. Je pense que ces lettres ont dû frapper vraiment celles et ceux qui les recevaient.
Alors, cette entreprise d'écriture dévoile aussi comment Calvin travaillait. Et là, page 134 de votre ouvrage, Calvin, paru aux éditions Infolio, vous nous entraînez, à la suite de Calvin, dans l'atelier de Calvin. Alors, comment est-ce que cela fonctionnait ?
Alors, évidemment, Calvin, comme je le dis, n'est pas un homme solitaire. Il est payé par les autorités politiques de Genève comme prédicateur, chargé d'expliquer l'écriture sainte jour après jour à la cité de Genève, aussi comme exégète, chargé d'expliquer un milieu un peu plus étroit et en latin le sens de ces écritures sous forme de commentaires. Il est donc payé, il était suffisamment payé, un peu plus qu'un pasteur ordinaire. C'est pour ça qu'il était payé un peu plus, pour pouvoir recevoir chez lui beaucoup de gens de passage qui affluaient de toute l'Europe, les recevoir dignement, il vivait très simplement lui-même, et pour disposer de secrétaires, de collaborateurs, qui étaient à la fois ses disciples, ses collègues, des collaborateurs. Et ces collaborateurs, eh bien, ils forment des espèces de mains, on peut dire, c'est-à-dire de prolongement de la plume de Calvin ou de sa bouche, car il leur dicte aussi. Il leur dicte, ils écrivent sous sa dictée les nombreuses lettres qu'il écrit à ses correspondants, mais aussi les commentaires bibliques qu'il rédige et qu'il n'a pas le temps d'écrire lui-même sur le papier. Ces collaborateurs écrivent comme Calvin. Ils ont appris à écrire comme lui, à imiter en quelque sorte son style, de manière à démultiplier sa présence, même si lui ne tient pas directement la plume, de telle manière qu'on puisse représenter, alors que ça vient de leur plume, la pensée et même la parole de Calvin lui-même. C'est un atelier d'écriture qui a fonctionné à plein régime dans les années 1550-1560.
Et vous allez même jusqu'à parler de cette fascination exercée par Calvin à son encontre, lui qui était en révolte contre tout ce qui touchait à l'idolâtrie, mais c'est un personnage charismatique.
Oui, on peut dire que c'est un personnage qui semble un peu, c'est sa réputation, l'image qu'on a de lui, quelqu'un de froid, etc. Parce qu'il était, sinon intransigeant, assez à cheval sur les principes et il ne cédait pas volontiers. Mais c'est quelqu'un qui séduit, qui a des amis, qui attire à lui, parmi les esprits les plus brillants de toute l'Europe, de sa génération. Parfois, il se brouille avec eux. Et alors là, c'est terrible. Mais il reste aussi en relation amicale avec des gens qui sont passés parfois seulement une, deux semaines chez lui et qui, jusqu'à la fin de leur vie, se considèrent comme ayant bénéficié de la rencontre avec un grand maître, qui est aussi un grand écrivain.
Si vous deviez, en quelques mots, définir le style Calvin, le style de l'écriture de Calvin, que diriez-vous ?
Je dirais que c'est un univers d'une lucidité totale, alors même qu'il y a un accent passionné. Une lucidité totale parce que Calvin sait parfaitement ce qu'il fait, ce qu'il écrit, à qui il s'adresse, et c'est efficace, et c'est toujours clair. Mais c'est aussi passionné, ce n'est pas un discours froidement intellectuel. Il y a dans l'expérience de la vérité qu'a fait Calvin et dans la manière dont il transmet ses convictions, on peut le dire, il y a quelque chose de brûlant et du coup aussi de véhément. Il ne faut pas y chercher des douceurs mièvres. On trouvera beaucoup de cœur, mais un cœur ardent.
Un personnage aussi doué à l'oral qu'à l'écrit ?
Absolument. Quand on lit aujourd'hui ces sermons ou ces commentaires bibliques ont été pris immédiatement en note, on a un peu de peine à se représenter cela car c'est fait en sténographie. Et donc il manque la présence de l'orateur, sa parole vivante, le geste, etc. Mais les milliers de personnes qui sont venues de toute l'Europe écouter ces sermons ou ces explications exégétiques, ces commentaires bibliques, ont été frappés par la densité de ce qu'il disait, la clarté de ce qu'il disait et la présence forte de l'orateur que l'on retrouve évidemment dans son style écrit, même si aujourd'hui ce qui a été pris en sténographie nous déçoit un peu parce qu'il manque justement cette présence. Mais dans le style des œuvres sorties de la plume de Calvin, cette présence est là.
Olivier Millet, pour vous, Calvin écrivain, un phénomène majeur de la littérature française du XVIe siècle.
Tout à fait. Depuis le XIXe siècle, on le dit, on le répète et ça n'est pas faux. Qu'il y a quelques grandes œuvres qui correspondent en prose, je parle de la prose bien sûr, pas de la poésie ici, de la prose française où s'invente un nouveau langage avec une nouvelle vision du monde. Il y a celle de Rabelais, contemporain à peu près de Calvin, il y a celle de Calvin, il y a celle de Montaigne pour la prose. Bon, les autres, à côté de ces trois univers, ont quelque chose de singulier, souvent tout à fait fascinant, mais ils n'ont pas ce caractère de totalité impressionnante et fondatrice.
Cette année du jubilé ne pourrait-elle pas faire rentrer dans les programmes universitaires quelques textes de notre ami Calvin ?
Ah oui, je l'espère, d'autant plus qu'il y en a toujours eu depuis le 19e siècle, mais en général c'est une page et qui traite en général un thème théologique sous l'angle moral.
La double prédestination.
Voilà, par exemple, ou la définition de la foi ou des choses comme cela. Mais il y a Calvin dispose de registres assez différents. Il y a le registre satirique, il y a le registre de la consolation et de l'édification. Il y a le registre tout simplement de l'explication des vérités bibliques aussi, qui est extrêmement intéressant.
Olivier Millet, pourquoi en conclusion de votre ouvrage, Calvin, paru chez Infolio, vous déclarez sur le plan historique, l'action de Calvin est marquée, si l'on estime par rapport aux objectifs que s'était fixé le réformateur, par plusieurs graves échecs. Vous terminez votre livre sur cette notion d'échec.
Oui, je termine cette notion d'échec, mais pour signaler aussi des legs positifs.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que je commence dans la conclusion par des échecs. Bien, effectivement, Calvin était un homme d'ordre et de paix, bien qu'il ait introduit une rupture fondamentale à l'intérieur du christianisme occidental. Et il espérait pouvoir surmonter cette rupture, dont il était en même temps l'agent, sur la question de l'Eucharistie. Et à l'intérieur d'abord du camp protestant, et puis peut-être aussi ensuite à l'intérieur du royaume de France. Et là, il a échoué. Et donc, cet échec, je ne lui imputerai pas les conséquences de cet échec, qui sont, nous le savons, les guerres qui ont suivi. Mais il a échoué dans cette tentative. Et donc, ce qui restait de Calvin, en dehors des cercles qui sont restés attachés à sa pensée, à son œuvre, à son inspiration, c'est sur le long terme, en termes culturels et sociologiques, une vision du monde, une reformulation du christianisme, une désacralisation aussi peut-être des rapports de l'homme avec le monde qui l'entoure. Ce sont des acquis, on ne peut pas revenir là-dessus, de la civilisation occidentale. Et ça, ce n'est pas un échec, c'est une donnée de notre univers.
C'est l'essentiel par rapport à la transmission de Calvin aux générations d'aujourd'hui ?
Oh, je dirais que si je parlais du point de vue de Calvin, Calvin c'est quelqu'un qui voulait aussi s'effacer, mais qui pour cela s'est affirmé, c'est le paradoxe. Je dirais que l'essentiel pour Calvin, c'est qu'il nous ramène toujours à ce qui est pour lui la source qui l'inspirait, c'est-à-dire les Écritures saintes. Bon, c'est le geste qu'il fait constamment, et c'est vers elles qu'il ramène ses auditeurs et ses lecteurs. Alors, c'est la force, c'est la beauté, la simplicité de ce geste, évidemment, qui subsiste et dans sa langue, dans la clarté, le caractère impérieux, le caractère persuasif de sa langue. Mais c'est comme le geste de Saint Jean-Baptiste, c'est un index qui fait signe vers autre chose.
Merci Olivier Millet d'avoir partagé ce temps de réflexion avec les auditeurs de Canal Académie. Je rappelle qu'ils peuvent poursuivre cette réflexion autour de la personnalité de Calvin en se procurant votre ouvrage Calvin aux éditions Infolio dans la collection Illico. Calvin, un homme, une œuvre et un auteur, vous Olivier Millet. Merci.
Merci de votre accueil.